Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Qu'est-ce qui a fait qu'Adam et Ève ont perdu leur autorité ? C'est dès l'instant où ils ont perdu leur innocence. L'autorité de Christ est connectée à l'innocence. Et régner avec Christ exige que nous cherchions à vivre une vie d'innocence, pas de perfection, cela est impossible. Personne ne pourra me dire « je ne pêche plus ». La Bible dit « si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu fais Dieu menteur ». Nous tous nous péchons. Innocence, c'est cet état d'esprit qui dit « Seigneur, je vais faire le maximum pour ne pas être trouvé en faute ». Et vous savez, la seule façon que j'ai trouvé en scrutant la parole de Dieu, bien sûr qu'il y a la prière, mais il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui prophétisent, qui font des grandes déclarations, mais leur vie n'est pas en règle avec Dieu. Parce qu'il faut revenir à la base. La base, c'est ma vie doit être en règle avec Dieu. Et Bethléem, c'est ce que Dieu nous apprend à Bethléem. Comment est ta vie naturelle? Comment est ta vie avec moi dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde quotidien? J'aime la prière du Fils de Dieu qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Il poursuit en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il aurait pu dire « Donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin pour le restant de mes jours. » Il dit « Non, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien, ma ration d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il veut que nous marchions fidèlement avec lui en dépendant de lui tous les jours. » Dieu peut dépendre de celui qui dépend de lui. Et Bethléem nous apprend, et je suis moi-même challengé, défié au plus profond de mon âme sur comment est-ce que je vis ma vie de tous les jours, comment est-ce que je vis avec ma femme et mes enfants et mon église et ceux que je sers, comment est-ce que je vis dans mon équipe, est-ce que je grandis dans les choses naturelles, est-ce que ma vie spirituelle se reflète à Bethléem? Et je suis appelé à être un prophète, et un prophète ressent le cœur de Dieu. Et le rôle du prophète est de redonner le cœur de Dieu. Et ce soir, le cœur de Dieu dit « Je t'aime à la folie, vis selon cette vérité. » J'aime les gens passionnés. Les gens passionnés m'inspirent. Rien n'est pire que d'avoir quelqu'un autour de toi qui n'est pas passionné. Il te dit « Ok, allons vivre cela avec passion. Alléluia. » Rien ne se passe. Mais quand quelqu'un est passionné, quand ses yeux brillent, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en lui, tu as envie de le suivre. L'église qui est remplie du Saint-Esprit est forcément une église passionnée. L'église qui règne avec Dieu est forcément passionnée. Tu ne peux pas régner avec Jésus dans cette vie sans passion. Impossible. La passion te consume, la mission te pousse à l'avant. La passion pour ta femme, la passion pour tes enfants et ton église te pousse en avant. On a lu ensemble Ésaïe 9, on a vu ensemble que la Bible disait qu'un fils nous est donné. Pourquoi ? Pour installer la domination, la paix, la puissance de Dieu. On a vu dans Romains 8, 5, 17, comment Dieu disait, Romains 5, 17, comment Dieu disait qu'il veut qu'on règne en Jésus-Christ dans cette vie. Alors je prie pour qu'en ce moment Dieu nous secoue, Dieu nous challenge, Dieu nous défie, Dieu nous pousse dans le retranchement, que vous et moi, à la fin de cette série, nous puissions dire « Saint-Esprit, tu as pris le contrôle total de ma vie ». Que signifie régner ? Régner signifie manifester la présence de Christ partout où tu vas. Régner signifie installer le royaume de Dieu. Régner signifie faire en sorte que les caractéristiques du cœur de Dieu s'installent. Ce soir, je vais tenter de finir en quelques minutes. Cette première grande ville, Bethléem. Bethléem, c'est le lieu dans lequel Dieu teste notre capacité à être fidèle dans les choses naturelles. C'est là où tout se joue. C'est là où tout chrétien peut gagner son ticket pour l'étape numéro 2, ou tout arrêter et tout perdre. Et beaucoup de chrétiens tournent en rond pendant des années parce qu'ils ne parviennent pas, malheureusement, à vivre les choses dans le monde naturel. On ne parvient pas à tuer notre ego. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu n'est pas contre une belle maison, il n'est pas contre une belle voiture, il n'est pas contre des beaux vêtements. Dieu est pour tout ça, Dieu est un bon papa. Il est extraordinaire, mais il ne faut pas que ces choses nous possèdent. Il ne faut pas que l'ego me possède, il faut que Christ me possède. Bethléem, tout le monde dit Bethléem. Bethléem est la ville dans laquelle tout se joue, mon ami. Et ce soir, je vais te prouver, je ne vais pas te refaire tout le cours, d'accord, mais je vais te prouver ce soir une chose très simple. On va voir ensemble pourquoi il est important de rester suffisamment longtemps à Bethléem avant d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire autre chose. Oui, fais plein de choses pour Dieu, mais sache que dans le monde spirituel, Dieu est en train de tester nos cœurs en ce moment même d'extravagance de la plupart des églises à La Réunion. Dieu, maintenant même, je vous déclare dans le nom de Jésus-Christ que la plupart des églises, la plupart du corps de Christ en francophonie est en train d'être passé au crible. Préparez-vous à voir à La Réunion des églises de Christ secouées comme jamais auparavant parce que certains ont osé dire « Seigneur, nous voulons te servir ». Et Dieu n'enverra jamais un homme qui n'a pas son cœur pour faire son plan. Il va devoir nous passer par Bethléem. 1 Samuel 16, 1 sur vos écrans, j'espère. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül ? Alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. » Remplis ta corne d'huile, ça part de l'onction. Et va à Bethléem. Onction à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Va à Bethléem avec l'onction. Va à Bethléem avec l'onction. Va à Bethléem avec l'onction. La plupart des gens ne passent pas par Bethléem, ils refusent Bethléem et ils refusent l'onction. L'onction. Au verset 6, il est dit, alors arrivé, il remarqua Éliab et se dit, certainement c'est lui que se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit pas, ne voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel. Et celui-ci lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et Isaïe et Samuel font fausse route. Ils essayent de choisir le futur roi en se basant sur des notions purement humaines. Ah, lui il est beau, elle est belle, grand talent, bon prédicateur, bonne parole, super style, super cool, beau, super groove. Et Dieu dit, non, c'est pas lui que je veux, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Car seul un homme qui a mon cœur peut refléter mon cœur. Je cherche un homme sur qui je peux compter. Je cherche une église sur laquelle je peux compter. Les réunionnais vont en enfer en ce moment. Sauf si l'église se réveille. Sauf si l'église se lève. Sauf si on voit Pasteur Steve implanter 14 000 bases à La Réunion en France et partout en francophonie. Sauf si on forme un rôle pour partir à Paris en France un jour. 1 Samuel 16, 11 nous dit. Puis il dit... Est-ce que ce sont là tous des garçons ? Non, répond Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons dans le pâturage. On va le chercher, ordonna Samuel, car nous ne pourrons pas installer le repas de sacrifice avant qu'il soit arrivé ici. Isaïe fait donc venir. C'est un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux, qui avait une belle apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Et Samuel prit la corne d'huile et il oignit David en présence de sa famille. Et l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après quoi, Samuel retourna à Rama. C'est à Bethléem que David a été oint pour roi avant qu'il ne devienne roi. À Bethléem, tout se passe à Bethléem. Il n'était pas en train de prophétiser, David, ni faire un concert devant 10 000 personnes, ni être le plus grand pasteur, ni le plus grand prophète. Il n'était pas connu, aucun visage sur les magazines. David était en train de paître le troupeau de son père, que personne ne voulait faire, une simple tâche dans la forêt ou dans le pâturage, avec sa guitare. Voilà les brebis, brebis 1, brebis 2, brebis 3, super, je vais, ok, cool. C'est rien ne se passait, mais Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Et à Bethléem, Samuel vient oindre David à Bethléem. Parfois nous sommes tellement interpellés et motivés par une prophétie, par une grande vision et par un grand rêve, et c'est super, j'aime ça quand Dieu me parle. On est tellement interpellés par la grandeur du rêve qu'on est happé comme dans un monde spirituel et on n'est plus du tout utile sur la terre. On ne comprend plus rien dans le monde naturel et on se déconnecte du monde naturel. On dit non, je n'ai pas besoin de faire ça moi, je ne sors pas les poubelles, je suis pasteur. Je ne repasse pas, je suis prophétesse. Comme je suis coach ou ancien ou leader du groupe de maison, je ne fais rien. C'est faux. Plus tu es spirituel, plus tu es fidèle dans le monde naturel. Et plus tu es charnel, moins tu es fidèle dans le monde naturel. L'homme spirituel prouve sa fidélité dans les choses naturelles. Et David était là, en train de paître le troupeau. Il a commencé à faire des choses simples. Et on va voir ce soir rapidement quatre fruits, quatre conséquences, quatre caractéristiques rapides de ce que apporte la fidélité d'un homme ou d'une femme qui a compris que ce qui compte, c'est vouloir plaire à Dieu et uniquement plaire à Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui veulent faire de grandes choses. Il cherche des hommes et des femmes qui veulent faire les choses de Dieu. Il ne cherche pas des hommes et des femmes qui ont une grande ambition. Il cherche des hommes et des femmes qui ont son ambition. Il ne cherche pas une église qui veut faire de grandes choses et avoir de grands bâtiments. Il veut une église qui est capable de toucher le cœur du Père et de le redonner à un peuple qui se perd. C'est ça que Dieu veut faire ce soir avec vous et moi. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde peut le faire. L'église peut régner, l'église va régner et nous devons régner ensemble. En soi, premièrement, la fidélité dans les choses naturelles va t'apporter, écoute bien ça, des révélations dans les choses spirituelles. Je vais vous dire, la fidélité dans le monde naturel peut t'apporter de grandes révélations dans le monde spirituel. L'onction dans ta vie et dans ma vie ne nous dispense pas d'être fidèles dans les choses naturelles. Au contraire, la qualité de l'onction dans ma vie repose et dépend de la qualité de mes actes dans le monde naturel. Ce soir, je vais conclure cette première partie de cette série Bethléem en vous prouvant des choses très fortes dans mon cœur ce soir. Et j'espère que vous serez bénis, challengés, défiés comme moi je l'étais par le Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a dit clairement, Bruno, tu prêches ce message-là, mais est-ce que tu veux vraiment le vivre ? Et tu pries à te persécuter. Et tu pries à ce qu'on monte sur toi, à ce qu'on triche, à ce qu'on te brise. Est-ce que tu pries à être attaqué tout le temps ? Je dis oui, Seigneur. En une après-midi, j'ai eu 14 messages d'attaque. Une après-midi. Je dis yes, je suis sur la bonne voie. Les gens disent, Seigneur, tu m'as promis d'être milliardaire. Je veux la promotion, je veux être milliardaire, je veux être milliardaire, je confesse, je brise, je confesse, je brise, je confesse, je veux milliardaire. Mais rien va ne se passer si tu n'es pas fidèle pour commencer ta première petite entreprise. Commence là où tu es. Et dans 10 ans, on en reparle. Oui, tu seras milliardaire. Dieu veut que tu sois milliardaire. Mais commence là où tu es. Regarde ton voisin, dit, il faut que tu... Non, dis-lui, tu dois faire face au lion du monde naturel pour apprendre comment vaincre le lion spirituel. 1 Samuel 17, 34 nous dit, et le premier point ce soir, c'est que la fidélité t'apporte des révélations spirituelles. 1 Samuel 17, 34 nous dit... David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui et je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais jusqu'à la mort. Ouais. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux. Car il a insulté le bataillon du Dieu vivant. Puis David ajouta, révélation spirituelle, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Et là, Saül dit, que l'Éternel soit avec toi. Lui, il n'a rien compris, lui. Il a dit, ben vas-y alors. Mais David avait vaincu le lion dans le monde naturel et l'ours dans le monde naturel. Et il savait donc que cette nouvelle attaque, quelle qu'elle soit, était capable. Il avait une révélation que Dieu était vrai, que Dieu l'avait protégé, que Dieu était pour lui, que Dieu était avec lui. La révélation dans le monde spirituel était là parce qu'il avait été fidèle dans le monde naturel. Imagine un instant que David dise, ah j'en ai marre, c'est trop dur, il faut que je garde 10 000 moutons, j'en ai marre, en plus il y a le lion et l'ours, papa, tu sais quoi, je t'aime et c'est trop dur, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon destin, je refuse, on a 7 frères, que tout le monde fasse chacun son tour, tout le monde veut m'aider, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais la même chose, et ils font rien, ils sont là, ils se pavanent, et moi je garde les troupeaux, j'en ai marre, non, il a dit, je garde les troupeaux, c'est ma mission, on m'a confié ça, je le fais, je ferme ma bouche, je ne me compare pas à personne d'autre, je le fais fidèlement, et bam, révélation, et il comprend comment Dieu agit. Deuxième chose, la fidélité dans les choses naturelles ouvre les portes des opportunités. Écoutez ça, bien avant que David ne sache que Goliath existait, avant même qu'il entende le mot Goliath, il avait accepté d'apporter à manger à ses frères et de voir comment ils allaient. Dans 1 Samuel 17, 18, vous verrez que Isaïe dit à David, « David, prends cela, emmène pour le chef des gardes, va voir comment tes frères vont et dis-moi de leurs nouvelles. » David n'est pas allé pour devenir roi. Il ne lui a pas dit, « David, si tu fais ça, tu seras roi. » David, au fait, quand tu y vas, tu verras, il y aura un Goliath, mais tu vas le battre. Vas-y. » Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Il allait simplement servir. Et le service dans son cœur, être fidèle dans ce qu'il devait faire, lui a mis face à face à une opportunité extraordinaire. Les opportunités extraordinaires sont réservées à ceux qui font le travail ordinaire avec fidélité. Et quand tu refuses, et quand je refuse de faire des choses ordinaires avec fidélité, je me disqualifie d'être présenté face à une opportunité extraordinaire. Lorsque je sais ce que je dois faire, je le fais. J'aime le verset 20 qui dit « Et David se leva de bon matin ». Le bon matin, il était prêt. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Et David remit, écoutez bien ça, il y a une foule de gars, imagine la scène, il y a une foule de gars, il y a une armée, il y a tout le monde qui se bat, il y a les militaires qui jouent de la batterie, on entend tout le monde crie, on va te tuer, j'ai peur, il fait à fond. Lui, il arrive, il trace tout droit et il amène les objets entre les mains du gardien et il va voir ses frères et leur demande comment est-ce qu'ils vont. Il aurait pu dire, attends une seconde, qu'est-ce qui se passe là, purée, on en est où, qui a gagné, qui a perdu? Et il aurait pu oublier les directives de son père qui lui dit, amène à manger à tes frères, donne un cadeau au chef des gardes et demande-leur comment ils vont. Lui non. Ma mission était de venir voir comment mes frères se portent. J'y vais et je leur demande. C'est une fois que cette mission toute simple est accomplie que tout d'un coup l'opportunité extraordinaire se manifeste devant lui. Et il entend un gars qui crie, qui jure le peuple d'Israël. Si David n'avait pas été obéissant vers son père, papa, tu sais quoi ? Envoie ton serviteur numéro 4. Envoie lui, et lui il n'a rien à faire. Moi je garde mes brebis, tu comprends, si j'ai pas la paix. Papa, j'ai pas la paix. Mes brebis, tu vois, elles me connaissent moi. Elles ne connaissent pas Jean-Max, elles ne connaissent pas Timothée, elles ne connaissent pas Fabrice, elles ne connaissent pas Daisy. Non, mais elles me connaissent moi, mes brebis, c'est moi. Non. Et pendant que tu refuses de faire les choses toutes simples, qui peut-être ne sont pas dans tes prérogatives, peut-être, tu viens de te priver sans le savoir d'une opportunité extraordinaire que Dieu a préparée pour toi. La fidélité dans les choses naturelles t'apporte de grandes révélations et la fidélité dans les choses naturelles t'apporte de grandes opportunités. J'espère que vous comprenez ce message ce soir. J'espère que vous allez le capter une fois pour toutes et qu'on va avancer avec puissance tous ensemble. Troisième point, la fidélité dans les choses naturelles apporte la victoire. La fidélité dans les choses naturelles, apporte la victoire. Verset 26, 1 Samuel 17, 26 nous dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Vous savez ce qui me choque avec David, c'est que David était tellement surentraîné que rien ne l'a choqué. C'est quoi le problème là? C'est qui ce gars là? J'ai battu l'ours, j'ai battu les lions, c'est qui ce gars là? Quand tu fais les choses, écoutez bien ça, quand tu fais les choses naturelles avec fidélité, tu prépares ton mental. C'est pour cela que tous les hommes de Dieu que nous connaissons, Pasteur Steve et moi, qui ont un impact, ont une discipline de fer. C'est pas des gars qui prient un coup, après ils oublient, un coup ils espèrent, un coup peut-être. Ils sont disciplinés, ils préparent leur mental spirituel. Tous les matins je prie, tous les soirs je prie, ou que soit le moment que tu as, tous les jours je lis la parole de Dieu. Je pardonne, dès que ça arrive, je pardonne, je ne laisse pas l'offense. Non, non, offense, sors de là. C'est pas possible de dire, je sais pas, je vais voir si j'ai le temps de prier. Peut-être que faut que je pardonne, hein? Lui, oui, elle, non. Toi, tu mérites pas, toi, tu mérites. Ok, je verrai. Suivant. Non, tu rigoles ou quoi? Bam, prépare le mental. On abat le lion, on abat l'ours, on est fidèle à l'église, on vient le dimanche ou on vient le soir, on aime sa femme, on aime ses enfants, on sert sa femme, on sert ses enfants et on maintient le cap. Et tout d'un coup, tu construis une façon de vivre, un style de vie. Les grands sportifs, Fabrice vous le dira, le sportif qu'il est ne peut pas réussir ce qu'il fait s'il s'entraînait une fois de temps en temps quand il avait envie. Une fois, il me parlait de son entraînement et le gars me dit, tu sais, des fois, j'ai pas envie. Il est quoi, à 6h du matin, il met sa lampe torche, le gars. Sa lampe torche en hiver et il va courir 20 km, 25 km là-bas, entre deux là-bas, sur je sais pas quel coin. Et je le vois après que ça monte, je vois le parcours, je fais ce bout-là, il est dangereux. Je regarde l'heure, je vois soit à 6h du matin, tout le monde dort fatigué, là, j'ai mal au dos, là, très mal au genou, là, j'ai mal, là, j'ai trop mangé hier soir. Et lui, non. Et après, oh, comment tu fais pour avoir de tels mollets? Littéralement, son mollet fait mon corps, mais quand même. Le point est le suivant, le gars est une machine. Il y a une vérité ce soir dans ce lieu. Quand tu es fidèle dans les choses naturelles, tu prépares un mental spirituel. Tu te prépares à ce que Dieu a pour toi. Tu te prépares à être victorieux. La plupart des gens ne sont pas victorieux parce qu'ils n'ont pas préparé la victoire. Et David abat le lion, David abat l'ours, son mental se construit. Ouh, Dieu est avec moi, j'ai vu Dieu agir, je l'ai vu plusieurs fois. Ce gars-là, l'ours ou le lion, c'est pareil, rien, c'est pareil, c'est le même système, on attaque, on y va. Parce qu'une fois que Dieu agit, tu sais qu'il peut encore agir. Un jour, je courais avec Fabrice, je prends l'exemple concret, vous voyez un peu comment ça se passe. Fabrice et moi, on court et elle me fait faire ce qu'on appelle des fractionnés en côte. Fractionnés en côte, c'est quand tu montes une montagne en courant. Déjà, en marchant, c'est dur, là, tu le fais en courant. Et tu fais 10 fois, je crois que c'est à l'époque, c'est 2 minutes, ou je sais pas, un truc comme ça. Tu le fais 10 fois, 2 minutes, tu reposes 1 minute, tu redescends, tu recours. Au bout de la 5e fois, j'avais envie de le flinguer, le gars. Enfin, accroche pas, tiens, tout ce style-là, quoi. Et il me dit, fais-le parce que quand tu seras en course ou quand tu vas revoir ce parcours, tu sais que tu l'as fait beaucoup plus vite, tu auras le mental pour le faire un peu plus lentement. J'ai compris. L'année dernière, quand on savait que France 2 allait nous filmer, il m'a dit, viens, on va se préparer pour la mascarène. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ma fat by night. Ma fat by night? Ouais, 40 km la nuit. Commence à 8h. On part de Saint-Paul. On fait le Maïdo, je sais pas quoi, Mafat, et on arrive à Sillaos. j'ai dit, ouais. C'est vrai? Il m'a dit, ouais. Là, il me dit, si tu as le mental pour ça, mascarène, ce sera un bonbon manioc. Et ben, ça a été deux bonbons manioc. Mais quand même, c'était vrai. Instamment dans la course, je me suis rappelé, j'ai dit, mais ça, c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu à Mafat la nuit. Il faisait 0 degré, on s'était perdus, c'était des trucs fous. La nuit à minuit, tu te perds à Mafat, faut le faire déjà. Pas de carte, pas de GPS, pas de téléphone, personne pour te dire où tu habites, rien. Et quand tu as fini cette portion, tu arrives à Sillaos, le soleil se lève, les gens commencent leur parcours, eux. Nous on arrive. Et là tu penses qu'il y a une chose, t'asseoir, prendre une douche et manger. Et on remercie à cette occasion l'hôtel, le Sillaos, à Sillaos, qui nous a ouvert les portes, qui nous a fait des serviettes, qui nous a pris une douche, on a mangé dans leur restaurant, on était contents, on n'a pas mangé, on a bouffé. Mais ce jour-là, j'ai appris de grandes leçons. Écoutez bien ça, hein. Quand la course est arrivée, j'étais prêt. Je me rappelle l'année dernière, je suis arrivé, mais tellement frais, je me suis dit, purée, j'ai même pas mal. C'est presque bizarre que j'ai même pas mal. Voilà. C'était tellement facile par rapport à ma fête by night. C'était facile. Parce que je m'étais préparé à vaincre mes propres problèmes, mes propres doutes, mes propres craintes, mes propres douleurs. J'avais repoussé le mur. Maintenant, ramène ça dans l'esprit. La plupart des chrétiens n'arrivent même pas à prier une heure. Alors, quand un démon arrive et attaque leur maison,
le démon m'a pris pour cible. Je suis assurément sa cible numéro 1. Il est ici, il n'y a que moi pour lui, le démon m'aime trop.
Tu es fou quoi? T'as prié?
Oui.
Combien de temps?
37 secondes.
Ok, tu peux faire mieux?
Oui.
Combien de temps tu vas faire?
38 secondes, c'est bien, vas-y.
Non mais, prépare-toi. Quand t'as un peu de temps le samedi matin, si tu ne travailles pas, tu travailles plus tôt et tu commences à 5 heures. 6 heures, et tu prépares un mental spirituel, tu te prépares la victoire. Fidèle. Fidèle. Pourquoi est-ce si important de s'entraîner comme David l'a fait? Quand tu t'entraînes, tu sais où tu es. Tu mesures tes progrès, tu sais où tu es. Quand tu ne t'entraînes pas, tu tombes dans le piège de l'orgueil. Tu arrives en course et tu penses viser les 10 premiers. Et au bout de 5 heures de course, tu es 998e. Tu as mal au genou, tu as mal au dos, tu rampes comme ça et tu as une grand-mère qui te dépasse. Tu sais qu'il y a un problème. Le psaume 31 nous parle de ce que David a vécu. Lors de ses entraînements. Psaume 31, il dit: Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Quand tu es capable de t'entraîner dans l'esprit et dans les choses naturelles, tu sais exactement ce que tu vaux. Est-ce que tu mesures ton travail dans les choses naturelles? Est-ce que si tu es un gendarme, tu es un meilleur gendarme? Si tu es un policier, est-ce que tu progresses? Si tu es le meilleur foyer, est-ce que tu progresses? Si tu priais une heure il y a 10 ans, tu priais 2 heures, est-ce que tu mesures? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu places ton mental? Est-ce que tu es fidèle? Parce que cette fidélité-là va emmener la victoire. Vous savez, j'ai écrit ici pour vous et pour moi ce soir. Écoutez bien ça. L'homme fidèle dans les choses naturelles est celui qui amène le royaume dans sa vie quotidienne. Écoutez bien ça. Puisque c'est là qu'il vit. Les mystiques, écoutez bien ça, et les hommes ou les femmes trop spirituelles ne vivent pas dans le monde naturel. Ils vivent dans un monde parallèle. Du coup, les gens qui les fréquentent ne voient jamais le royaume se manifester parce que leur royaume se manifeste dans leur monde parallèle. Mais là où tu vis, tu règnes. Si les gens qui m'entourent ne sont pas capables de voir le règne de Dieu dans mes décisions, si les gens qui m'entourent ne sont pas capables de voir le règne de Dieu dans ma façon de parler à ma femme ou mes enfants, je ne change pas. Je ne progresse pas. Et ça n'a rien à voir avec la personnalité. On est tous différents. Je parle de caractère. Rien à voir. Tu peux avoir une très belle personnalité et un caractère pourri. Ou avoir une personnalité fragile ou presque invisible, mais avoir un caractère pur. En France, on confond les deux. On dit qu'il y a un seul caractère. Ça veut dire quoi? Ça se trouve, il a un très bon caractère. Il est très juste, très franc, très vrai, très pur. Mais par contre, il est trop brutal, personnalité. Et donc, le gars qui vit dans un monde parallèle. Papa, maman, pasteur Bruno, on a une prophétie. Je suis un prophète. À partir d'aujourd'hui, plus de chambre. Je ne peux rien. Je suis prophète. Je rends gloire à Dieu pour ma femme Elodie. Elle n'a pas ce défaut-là de jouer à la star et de dire je ne fais pas à la maison, je ne fais pas à manger, je ne fais pas mon lit. Voilà, je suis la femme du pasteur. Déjà, si elle aurait fait ça, mon pasteur Marc vous aurait déjà claqué par-ci claqué. Et deuxième chose, je crois qu'on n'aurait pas pu s'entendre. Tout le monde dit mental, mental spirituel. Et enfin, la fidélité dans les choses naturelles ouvre la porte à la promotion et à tous les bienfaits qui lui sont attachés. Parce que oui, Dieu veut t'élever, Dieu veut te promouvoir, Dieu veut te bénir, il veut te combler de bienfaits, il veut te gâter dans le sens comme un papa aime ses enfants, il veut te donner une promotion. Mais pour cela, il faut absolument que tu te dises, attention, je me suis préparé, j'ai été fidèle. Dans 1 Samuel 13, verset 13, ce sera mon dernier passage ce soir pour vous. Écoutez bien, mes amis. Samuel s'adresse à Saül et il dit, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. Et l'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. » Et on me dit, oui, pasteur, tu sais, ça c'est l'Ancien Testament, on est sous la grâce. Et les gens pensent que la grâce signifie que Dieu a baissé ses standards. Mais tu rigoles ou quoi? La grâce existe parce que Dieu a maintenu ses standards. Et donc la grâce, c'est la capacité que Dieu nous donne pour vivre selon ses standards. La grâce ne signifie pas que je peux tout faire quand je veux, non. Et ce soir, j'aimerais vous encourager à méditer avec moi. Est-ce que vous voulez régner avec Christ? Je suis conscient qu'en ce moment, les messages sont un petit peu du style « wow ». Mais si nous voulons vraiment changer, il faut mettre le doigt là où ça fait mal et dire « je réaligne, je change, je me repens, j'arrête et je fonce pour Dieu parce qu'il y a une éternité devant nous et quand on va arriver au ciel, on va rendre des comptes à Dieu. » Sûr. La vie est belle si on fait son plan. Écoutez ça, ce que Dieu veut dire, quand Dieu dit « je me suis choisi un homme selon mes désirs », c'est ce qu'il veut dire? Il dit « je veux un homme qui me ressemble pour diriger mon peuple. Un homme qui me représente dans mon caractère. Un homme qui a mon cœur. Un homme qui reflète mon cœur dans le monde naturel. Là où tout le monde le voit. Là où tout le monde te regarde. Dès l'instant où je dis « Seigneur, je veux avoir ton cœur envers ma femme et mes enfants et mes amis et l'équipe pastorale et mes ouvriers ou mes employés ou mon patron. » Dès que tu commences à vivre comme ça, tu fais « voilà un homme selon mon cœur. Voilà un homme qui a le caractère. Voilà une église qui me représente. » Vous êtes membre de l'église de Christ. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes l'église de Christ, oui ou non? Allons porter son nom avec honneur. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Allant manifester son règne avec honneur. Est-ce que cela va se faire en une semaine? Non. Est-ce que Dieu va attendre qu'on soit parfait pour aller plus loin? Non. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, l'état de cœur peut activer sa grâce et nous faire accélérer, et nous faire grandir, et nous faire changer ce qu'il y a à changer. Steve et moi, souvent on se parle. Je rends gloire à Dieu pour un ami comme lui. Et on se parle et on scrute nos cœurs. Et on se parle et on dit, Steve, tu penses quoi de ça? Tu penses que mon cœur est pur ou pas pur là? Et lui pareil, il me dit, non moi aussi, et toi tu penses quoi? On craint Dieu, c'est pas une peur du style, tu sais, on n'a pas envie de rater le coche, on n'a plus envie de perdre du temps, on n'a plus envie de perdre du temps. Alors ce soir, je vous encourage, Église. J'ai prié pour vous cette semaine et j'ai demandé à Dieu, si je pouvais prier avec vous ce soir et demander à Dieu qu'il ouvre le ciel sur vos vies. Et il m'a répondu, oui, je veux ouvrir le ciel sur leur vie. Cela va dépendre que d'une seule chose, mon état de cœur. Régner dans ma famille. Mon rêve, c'est que ma femme puisse me dire un jour, chérie, je suis fier de toi, quand je te vois, je vois Christ. Je suis encore loin. Que mes enfants me disent, papa, tu sais, quand je vois Christ. Juste cette histoire qui m'a touché jusqu'aux pleurs, aux larmes des larmes. Cette jeune fille qui se marie ce jour-là. Et le MC, comment on dit le MC, le maître de la cérémonie, lui pose une question devant tous les invités et lui dit, mais pourquoi avez-vous choisi ce gars-là? Pourquoi? Elle a dit, parce qu'il a du caractère, il est pur, il aime Dieu, il est un homme passionné, il prie, enfin bref, elle sort un paquet de qualités de fou. Je dis, ouais, t'es ce gars-là, c'est un gars dangereux. Après elle dit en pleurant, et pour résumer, parce qu'il ressemblait en tout point à mon père. Ouh. Elle a dit, toute ma vie j'ai vu l'exemple, et je pouvais facilement dire qui choisir en regardant mon père. Le gars est radicalement différent de son père. Il n'est pas même physique du tout, pas même style, pas même look, rien à voir. Elle parlait de caractère. Elle a dit, mon père avait une parole. Mon père arrivait tôt. Mon père priait. Et quand j'ai commencé à voir au bout de 3 ans que mon petit ami avait les mêmes caractéristiques de mon père, qu'il s'entendait bien, que mon père avait validé sa vie, que mon père avait dit, c'est un bon gars, il est proche de Dieu, j'ai la paix, j'ai foncé, on s'est mariés. Pouf, les papas. Le jour va venir, au moins, je suis obligé de dire à ma fille, qui as-tu choisi? J'espère qu'elle choisira un homme selon le cœur de Dieu en me disant, papa, tu sais quoi? Tu m'as montré quel genre d'homme, il fallait que je choisisse. Il y a aussi l'inverse. J'ai pris ce gars-là parce qu'il était totalement opposé à mon père. Que cela ne vous arrive pas, chrétien. Nous sommes les standards dans nos familles. Maman, la plupart des belles filles que je connais, quand je les vois réagir avec leur mari, je sais d'où ça vient. 90 fois sur 100, 9 fois sur 10, si la femme ne sait pas se comporter avec son mari, regarde la belle-mère. Mon beau-père un jour m'a dit un truc sage, Alain, il parlait de lui que physique. Il a dit, tu veux voir, ta femme va être cool? Regarde sa mère. Je dis, Alain, je sors avec ta fille. Justement, ma femme, c'est un canon. Ma fille, c'est un canon aussi. Tu as vu comment ça se passe là? Tu as vu à 50 ans comment elle est? Mais c'est un super gars, d'accord. Et lui, c'était. Mais dans l'esprit, j'ai capté. J'ai dit, ouh. Parce que la fille, les enfants vont grandir en imitant les parents. Mon cœur en ce moment de pasteur, je vous le dis avec beaucoup d'amour. Pleure, littéralement. Littéralement. Pour 2 grands problèmes dans l'église de Christ à La Réunion en France, et peut-être ici un peu ce soir, c'est les couples et les enfants. Parce que les enfants, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, ce sont des blocs de ciment frais qu'on peut modeler. Mais après 6-7-8 ans, c'est plus difficile. Et à 14 ans, c'est quasiment impossible. Et à 20 ans, tu peux dire au revoir. Après, il faut aussi autre chose. J'aimerais donner un petit conseil aux parents qui, en ce moment même, font face à des enfants qui pètent des crises pour rien. Entre guillemets, qui font lâchent un câble. Un enfant de moins de 7 ans n'a qu'un point de sécurité. C'est de sentir la présence de ses parents. Et donc, quand un enfant pète un câble, comme on dit, quand un enfant se manifeste violemment, il est en train de vous dire « Maman ou papa, j'ai besoin de ton attention. J'ai besoin que tu me dises que j'existe. J'ai besoin que tu sentes, que je sente ton amour. » C'est qu'il y a un manque relationnel. S'il est ingérable, c'est qu'il a un manque relationnel. Arrêtez vos activités. Faites moins de travail pendant une saison. Allez moins au sport. Passez du temps avec lui ou avec elle. Influencez l'atmosphère avec lui. Donnez-lui de l'amour ou elle de l'amour. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de 2 mois, il se sera beaucoup calmé. C'est pour ça que les enfants, souvent, lorsque des vacances sont réussies, ils sont calmes durant les vacances. Ils sont différents et ça change. Sauf si les vacances, les parents sont aussi absents. Mais je parle des vacances où c'est en famille, où les parents sont avec les enfants. L'atmosphère a changé. L'enfant est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Il t'écoute. Et ça change. Donc si votre enfant en ce moment se comporte mal, ne dites pas « Pasteur, prie pour moi, pour briser le démon ». Ce n'est pas le démon. C'est un manque affectif. Ses parents sont trop absents à son goût. Ils sont là dans la maison, mais ils ne sont pas avec lui. Ils ne sont pas assis pour l'écouter rêver. Ils ne sont pas assis pour entendre son petit cœur. Écoutez vos enfants. Vous allez vous rendre compte qu'ils vont vite se calmer parce que leur réservoir spirituel sera, leur réservoir, excusez-moi, émotionnel sera rempli. Ce soir, Esprit de Dieu, tu vois les membres de l'Église extravagance ici.